Bah, il faut, c'est en deux temps.
Alors, on est de retour dans son titre.mp3 pour notre petite chat super débat. Là, je vais faire une chronique un peu générale, c'est-à-dire que ça va pas avoir de médias particuliers, mais ça va regrouper plusieurs fandoms. Donc, ma chronique s'appelle Totémisme et fandom, donc je dois déjà vous expliquer les deux mots. Les fandoms, en fait, c'est l'ensemble des fans d'une série ou d'une œuvre ou d'un roman et leur production culturelle. C'est-à-dire, on désigne par là souvent des trucs un peu, enfin, des mouvements modernes de fans. C'est-à-dire, par exemple, les fans Harry Potter qui font des fanfictions, qui font des cosplays, ils s'habillent comme les personnages, ils vont faire des fanarts.
C'est fou, quoi.
Ouais, c'est vraiment les fans hardcore, quoi.
Ouais,
c'est
fou, quoi.
Tandis que,
comme moi avec Gravity, quoi.
Un peu, ouais. Enfin, tu vas pas encore. Si t'allais dans l'espace et que tu t'habilles en astronaute.
Son prochain, il est en astronaute.
Ok. Donc ça c'est fan. Enfin moi je dirais une fanbase, c'est le truc plus large, c'est-à-dire vraiment tous les gens qui aiment bien. Genre moi j'aime bien certains trucs, mais c'est pas pour autant que je vais vraiment aller des conventions ou des trucs. Tandis que fandom, ça, il y a vraiment une idée de socialisation. Les gens ils veulent vraiment partager ça et voilà. Donc ça c'est les fandoms. Le totémisme par contre, ben bon, je vais, pour vous donner un exemple, vous vous rappelez peut-être vos cours de gym ces perpétuelles séances de torture en groupe, on faisait des sports débiles comme je sais pas du tchoukball où on était censé je sais pas apprendre des choses parce qu'on allait quand même à l'école pour ça. On répartissait les équipes, moi j'étais toujours en dernier parce que j'étais le gringalet et tout, donc on les numérotait équipe 1 2 3, mais ça aurait été galère parce qu'on n'aurait jamais reconnu les équipes. Donc il fallait qu'on se distingue. Le prof il nous jetait des sautoirs de diverses couleurs et puis t'avais des équipes rouges, jaunes, bleues, verts et puis après on les opposait, OK. Basiquement les rouges, ils avaient rien de plus rouge que les verts étaient verts. Enfin, ils avaient rien à voir avec cette couleur. C'était un truc purement arbitraire pour les désigner, ok. Ben pour, c'est purement arbitraire, mais il vaut mieux un classement arbitraire que pas de classement du tout. Ben pour Lévi-Strauss, dans son œuvre La Pensée sauvage en 1949, le totémisme, c'est une forme de. Voilà, la leçon, elle commence. Je pose le stylo, les gars.
C'est parti.
Et ceux qui nous écoutent chez eux, je ramasse les copies dans une heure. Alors faites pas les malins. Donc, Lévi-Strauss, il disait que le totémisme, c'était pas un culte des animaux ou quoi, mais c'était une méthode de classement pareil. Genre, pour distinguer les individus, nous, on a des prénoms. Bah, il y aura des mecs qui vont plutôt essayer de leur filer des totems. C'est-à-dire, il va y avoir un, ça va être ours, renard, babouin malicieux, j'en sais rien quoi. Et de la même manière que distinguer les gens par les couleurs, c'est pas forcément besoin qu'il y ait quelque chose qui ait à voir avec la personne.
Ah ouais? Moi, je croyais qu'il y avait un mec dans les tribus qui s'appelait...
Ah non, attends, j'y viens. Excuse-moi. Mais pour Lévi-Strauss, c'est pas obligatoire qu'il y ait un rapport. C'est-à-dire, par exemple, si on l'utilise pour des clans, on va dire il y a le clan du bœuf, le clan du babouin. Le clan du bœuf n'est pas forcément bovin et le clan du babouin n'a pas forcément à voir avec le babouin. Mais c'est-à-dire qu'ils sont différents et donc on dit que ces clans sont différents de la même manière que le bœuf et le babouin sont différents. Putain, mais tu te parles parce que je dis babouin ou...
Mais non, mais je sais pas, on parle de bœuf, de babouin, enfin je sais pas.
Ok.
C'est cool.
Mais... Bah, basiquement, voilà, c'est un classement arbitraire, mais tu te bases sur la nature pour identifier les gens puis les distinguer. Okay.
Comme les sautoirs, quoi.
Voilà, comme les sautoirs, c'est une autre forme de classement, quoi. Mais parfois, comme le dit Giovanni, l'homologie, enfin l'identification, elle va plus loin. Un mec, il est totémisé serpent. Quand c'est un individu, généralement, c'est parce qu'il a un rapport. Si tu le totémises serpent, c'est parce qu'il a quelque chose de sinueux ou de fourbe ou je sais pas quoi. Après, ça va dépendre dans quelle symbolique tu le fais. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a une symbolique des animaux. Ces gens là-bas, les gens qui totémisent, ils ont une symbolique différente. Donc ça va dépendre de ce que ça leur évoque à eux. Donc j'ai deux thèses distinctes mais d'égale importance, cher chroniqueur. Je vais commencer par d'abord l'identification parce que c'est le plus simple. Simplement, ma première théorie, c'est que pour faire des personnages attrayants et variés, etc., et donc avoir une bonne histoire et donc avoir une fandom énorme et puis avoir beaucoup de fans très impliqués, une méthode simple pour avoir des personnages variés, parce que si tous les personnages sont pareils, c'est chiant, c'est de se baser justement sur un système de symboles puis de foutre des personnages comme ça. Genre un exemple simple, les quatre fantastiques, c'est les quatre éléments. Tu regardes Ben Grimm, c'est la chose, il est en pierre. Tu regardes la torche humaine, il est en feu. L'homme élastique, Mister Fantastique, c'est l'eau, la souplesse. Et puis Susan Storm, c'est l'air. Et la femme invisible, elle fait des champs de force. Et dans les faits, ça se retrouve aussi dans leur caractère. Genre Johnny Storm, il est vraiment impétueux. Ben Grimm, il est vraiment terre à terre. Et puis ça, le truc, c'est que ça marche parce qu'on a une symbolique. Enfin, quand on dit le feu, tu penses à la colère, la vivacité, etc. Quand on dit l'eau, tu penses à quelque chose de plus zen. Et puis... Du coup, ça te donne un point de départ pour définir tes personnages. Puis il y a Scott McCloud, qui est un des meilleurs auteurs de BD du monde, il donnait un conseil, c'est baser vos personnages sur n'importe quoi. Genre, je sais pas, les jeux de cartes. Tu prends les jeux de cartes, ok, t'as un personnage qui sera le valet, un personnage le roi, un personnage la reine, hein, il sera le 10 ou l'as. Puis tu te bases là-dessus, genre, ok, je vais avoir des personnages cœur, ils seront plus... un personnage sera le cœur, il sera plus émotionnel, un personnage pique, ce sera un bâtard, je sais pas quoi. Ça marche avec tout, tu peux prendre, je sais pas, les 4 saisons, ok, l'automne il sera mélancolique, l'hiver il sera déprimé, l'été il sera joyeux, puis ça marche bien parce que Scott McCloud il avait fait ça avec les facultés humaines, il avait créé 4 personnages, puis il avait dit, alors là un c'était l'émotion, un c'était la volonté, un c'était la raison, et un c'était, je sais plus ce que c'était, je suis plus sûr de ce que c'était, mais une autre faculté humaine. Et basiquement, il disait, c'était grossier comme séparation, mais ça me permettait de savoir dans toutes les situations ce qu'il ferait. C'est-à-dire, imaginons, il y a le sol de la pièce qui s'ouvre et il tombe. Bah, celui qui a de l'émotion, il va faire « Ah, on va tous mourir !» Celui qui a de la raison, il va dire « Accrochez-vous à quelque chose !» Enfin, il va y avoir une réaction rationnelle. Puis, il me disait que c'était vraiment pratique pour ça. Donc, je pense que... Bah, un exemple assez simple d'une série qui fait beaucoup ça, c'est Batman. Batman lui-même, il est basé sur la chauve-souris, sur l'idée de terreur. Enfin, il prend ce symbole de la terreur et il essaie de le réorienter en symbole d'espoir pour... enfin, parce qu'il veut effrayer les criminels. De l'autre côté, le Joker, il prend le symbole de l'arlequin ou du clown, qui est quelque chose de joyeux, puis il le pervertit. Et dans Batman, tous les méchants ont à peu près ça. Catwoman et le pingouin, c'est assez clair que c'est des animaux. Poison Ivy, c'est une plante venimeuse. L'épouvantail, c'est pas un animal, mais après, il y a le chapelier fou qui vient d'Alice au Pays des Merveilles. Mais Batman, ils font vraiment ça. Tous les méchants sont vraiment une idée personnifiée, si
et
tu
Bane.
Veux. Hein?
Et Bane, ça serait quoi?
Bane, pas vraiment. C'est un peu à part, mais lui...
The punishment must be more severe.
When Bukatam is in ashes. Non, mais il a... Bane, il est un peu à part, parce qu'il est sous stéroïdes, mais il a pas vraiment de symbolique. C'est juste un méchant... En personne, c'est un méchant dopé, mais il a pas vraiment de symbolique. Ouais. Tandis que double face, voilà, c'est la bipolarité, la justice, l'arbitraire. Et ils ont tous un symbole comme ça. Puis, bon, une des séries qui... L'œuvre qui a poussé ça à son paroxysme pour moi, c'est Homestuck. Bon, j'en parle souvent, mais je le conseillerais à peu de gens. On disait, ouais, j'ai du mal à conseiller parce qu'il faut avoir 20 heures devant vous pour Homeland. Homestuck, je pense qu'il faut avoir vos week-ends pendant 3 mois parce que c'est vraiment un webcomic qui fait 8000 pages. Il y a énormément de textes dedans. Enfin, il y a quelqu'un qui a calculé qu'il y avait genre 800 000 mots, ce qui fait la moitié de la recherche du temps perdu. Donc pour une BD, c'est quand même pas mal. Vous avez aussi des passages qui ne sont pas textuels, mais c'est des niveaux de jeux vidéo. Donc tu joues un des personnages et puis tu vas parler aux autres. Ça fait partie de l'histoire, mais ça change complètement de média. Et ce jeu vidéo, pour y jouer entièrement et puis faire tout ce qu'il y a dedans, bah, tu as quand même pour une petite heure, quoi. Donc ça va vite très loin. Mais basiquement, tous les personnages sont un peu basés sur quelque chose. T'as les 12 trolls, parce qu'en gros, les héros se font troller sur Internet. Puis on apprend que non, ce ne sont pas des trolls d'Internet, mais c'est une race alien qui s'appelle les trolls, voilà. Et les 12 trolls, les premiers qu'on rencontre, sont basés sur les 12 signes astrologiques. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont tous, enfin, ils portent tous leur signe astrologique, le symbole sur la poitrine. Et par exemple, bon, c'est plus simple si je donne des exemples, Thérésie, elle est basée sur la balance. Et donc, elle adore faire du jeu de rôle judiciaire. Elle adore la justice et tout ce qui va avec, parce que la balance. Et aussi, elle est aveugle, parce que la justice est aveugle. Puis, typiquement, c'est... J'ai mis, tu disais quand on découvre des trucs comme ça, on est con, mais j'ai dû relire pour comprendre ça. Tout le monde était là, ouais, c'est évident et tout, mais j'ai dû relire pour comprendre que si elle était aveugle, c'est parce qu'elle est basée sur la balance.
Et du coup, tu t'es trouvé con.
Ah, je me suis trouvé tellement bête.
Donc ma théorie marche aussi, ouais, elle est un peu plus simple, mais...
Non, mais par exemple, Écus, il est signe du Sagittaire, donc il aime tirer à l'arc, parce que le Sagittaire, c'est un centaure avec un arc. Et il est ultra bourrin, parce que c'est un centaure, et il aime bien, de manière assez glauque, les images de chevaux musclés, enfin... Et il est tellement balèze qu'il pète ses arcs en deux. Du coup, en fait, il se retrouve avec des moitiés d'arc. Puis du coup, ça fait des fouets, en fait. Donc, c'est un personnage qui est orienté vers le SM. Et une espèce de zoophilie glauque, mais c'est très drôle.
Non, je suis bélier, moi.
Mais celui des Gémeaux a tout un trip avec la double personnalité, vous en doutez. Celle du Lion a une personnalité féline. Elle adore les chats et ce genre de choses. Celle de la Vierge a un rôle assez matériel.
Le Bélier, c'est un bourrin, quoi.
Bélier, c'est un peu spécial. Elle est un peu sataniste, mais je pense que c'est dû à la symbolique du Bélier.
Ah, ils sont sataniques.
Ben, parce que, ouais, c'est un animal qui était vu comme... ouais. Voilà, ça va assez loin, mais pas seulement eux. Par exemple, t'as The Midnight Crew, ces quatre membres, ils sont basés sur les couleurs de jeux de cartes. Donc, en un, ça va être le pic, hein, le cœur, carreau, trèfle, et puis c'est assez basé sur cette symbolique. T'as les membres de The Felt, c'est un gang rival, qui sont basés sur le billard. Donc, ils ont tous un chapeau avec un nombre, et puis soit une rayure sur la couleur, comme les boules de billard. Et par exemple, et après, ils sont basés en fait sur leurs chiffres. C'est assez, par exemple, le Snowman. C'est la huitième boule, donc la boule noire qui est la plus dangereuse. Et pourquoi Snowman? Parce que le 8, ça fait un petit bonhomme de neige. Donc Snowman, ça va chercher assez loin.
Là, c'est subtil.
Non, mais à part ça, c'est vraiment... Homestuck, c'est une œuvre qui est bordélique. On te raconte tout dans les ordres 3 ou 4 fois. T'as du voyage dans le temps, des paradoxes tout le temps. Énormément de mystères. Et du coup, je trouve que ça donne une espèce de symétrie et d'harmonie à l'œuvre d'avoir tous ces petits symboles que tu découvres. Parce que des fois, c'est tellement bordélique que tu comprends pas forcément ce qui se passe. Mais t'es là, ah ok, Snowman, c'est parce que c'est bonhomme de neige. Puis tu le sens super intelligent, donc... Mais donc ma première théorie, c'est que ça permet justement de rendre un semblant d'ordre et de symétrie, puis ça permet aussi d'avoir justement une variété de personnages arbitraires, mais au moins variés. Enfin, genre, je sais pas, je base mes personnages sur les pièces d'échecs, bah ça va m'évoquer des choses et ça va faire que je vais avoir des déterminations pour eux, mais qui vont m'aider à pousser ça jusqu'au bout. Donc je propose qu'on s'écoute une petite musique, puis on revient pour la deuxième partie plus courte.